Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séances Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 8. Nous enregistrons aujourd'hui depuis la Cinémathèque. Et là, les gars se disent, les auditeurs se disent, waouh, ils ont pris du level niveau tapis rouge, Festival de Cannes, les gars. Non, on n'est pas en direct de la Cinémathèque.
Mais on est sur un tapis rouge.
Ouais, on est sur un beau plaid rouge, mais on est sur le gazon, à côté en fait. Ils nous ont dit, les gars, vous allez vous mettre là-bas. Il n'y a pas moyen que vous rentriez dans la Cinémathèque, enregistrez votre podcast, c'est bon. Foutez-nous la paix, dégagez. On va parler aujourd'hui de Game Night, la nouvelle comédie US réalisée par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Pour en parler avec moi, j'ai un Wolfpack d'exception, puisque j'ai, comme d'habitude, mon ami Pierre Delors de fanfootage.fr. Salut Pierre, ça va ?
Salut, ça roule, ouais. Le soleil, tranquille.
Ouais, on est bien là, on est bien avec, avec les petits moustiques et avec les
oiseaux.
Les oiseaux, les enfants, tout ça. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr. Ça va, messieurs ?
Salut, ça va ?
Ça va, la forme ?
Ouais.
Bon.
Je sais que cette voix, soudainement.
Salut, messieurs.
Ilan Ferry, célibataire.
Bon. Ok. On va pouvoir réussir à y aller, c'est pas grave. Vous allez voir, on va bien s'amuser. On est bien, on s'est dit que voilà, enregistrant en extérieur, ça changeait un peu. J'espère que ça rendra bien au niveau du son.
Il y a un enfant qui va se faire kidnapper derrière nous.
De toute façon, c'est de la radio, c'est magnifique. On s'est dit que voilà, ça pouvait rajouter un petit peu de charme bucolique. Bon, on verra ce que ça donne au mixage. On a les chips qui sont sortis, les bières également. Donc on va pouvoir attaquer.
Yes, c'est parti.
On y va ? Allez, go.
Bon. Cette mission, c'est quoi ?
Game Night, c'est l'histoire de Max et Annie, incarnés par Jason Bateman et Rachel McAdams, qui chaque semaine donnent rendez-vous à leurs amis pour des jeux d'apéro, sauf qu'un jour, Brooks, le frère de Max, veut organiser une surprenante murder party, puisque ce dernier va se faire kidnapper sous le regard amusé de tous. Donc chacun va se lancer alors dans l'enquête, mais à mesure que celle-ci avance, une question va revenir. Était-ce une mise en scène ou non ? Le film est réalisé par Jonathan Goldstein, qui a incarné le jeune Sam dans la série Freaks and Geeks, et John Francis Daley, qui sont tous deux scénaristes de Comment tuer son boss ou encore de Spider-Man Homecoming, hein, parmi 5 autres scénaristes, et auteur également de Vive les vacances et du prochain Flashpoint pour DC. Avant de vous laisser la parole, moi j'ai trouvé ce film plutôt sympa. C'est une variante amusante de The Game de David Fincher. Hein. Il salue quand même sa filmographie. On y reviendra en détail là-dessus. Mais bon, voilà, comédie d'action assez ludique, efficace. Je trouve le casting assez parfait pour le coup. C'est très plaisant, mais pas hilarant. Et Jesse Plemons, high level, quoi.
Ouais, d'accord. Il a un petit rôle dans le film.
Allez, Pierre, vas-y, t'as pris la parole, continue. Toi qui ne voulais pas commencer, bah tiens,
je ne voulais pas commencer ce podcast. Bon, bah alors, du coup, moi je viens de voir le film, puisqu'il est quoi ? Il est 16h et quelques là. Je suis sorti de la séance à 15h.
Ouais, il est 16h.
C'est encore tout frais dans ma tête. Globalement, c'est une expérience que j'ai plutôt appréciée. Je me suis bien marré. Enfin, il y a quelques gars qui m'ont plutôt fait rire. Dans la salle, les gens avaient l'air d'être assez réceptifs. Je suis allé alors relativement vierge de toute information, de tout spoil. J'avais simplement vu une des premières bandes annonces qui, alors pour le coup, je trouvais pas le film extrêmement bien vendu. Ça m'avait pas fait tellement envie et j'ai été tellement déçu par l'ensemble des comédies américaines de ces dernières années que, à la base, j'avais pas particulièrement envie d'aller le voir. Ni Jason Bateman, c'est un comédien, enfin que j'ai rien contre lui, mais que je ne connais pas très bien. Je suis pas très au courant de son travail en tant que comédien. Alors il y a quelque chose qui m'a un peu surpris dans le film, c'est que par rapport à beaucoup de comédies US qui sortent ces derniers temps, il y a une ambition, y compris visuelle, qui est nettement au-dessus de la moyenne, je trouve, sans qu'on atteigne des sommets non plus. Mais c'est plaisant à voir. Il y a quelques idées de mise en scène de temps en temps. Il y a un petit travail sur le rythme et sur le montage et sur les et sur les cuts et les passages d'un plan, les transitions d'un plan à l'autre qui sont un peu plus élaborées que dans la plupart des comédies US. Mais à tel point que je vais commencer directement dans le négatif, parlant de ce qui fâche, c'est que, alors je sais pas si c'est parce que le film a été réalisé par un duo de réalisateurs, mais je trouve qu'on a l'impression qu'il y a, enfin j'ai l'impression qu'il y a comme deux univers totalement différents.
Ouais.
Et c'est très paradoxal, c'est-à-dire que à la fois t'as un travail notamment sur le générique d'intro que je trouve très réussi, sur la musique qui est extrêmement stylisée, sur les transitions qui sont
Martinez,
sur les
musique,
excellent compositeur, les transitions qui sont clairement des emprunts au cinéma d'Edgar Wright, hein, c'est vraiment très très inspiré par ce qu'il fait. Et à côté de ça, t'as une mise en scène dans l'ensemble du film qui est extrêmement basique, qui de temps en temps une petite fulgurance intéressante, mais qui reste très plan-plan, avec des chants contre chants tout à fait simples, et un rythme et des gags qui fonctionnent, mais c'est parce qu'aussi les comédiens sont bons et que les situations sont intéressantes. Et du coup, je trouvais le film un peu schizophrène. Et il y a deux univers qui, pour moi, se télescopent un petit peu. C'est pas particulièrement gênant, mais j'ai trouvé ça surprenant. Je sais pas si vous en avez pensé.
Julien, vas-y.
C'est qu'en fait, si tu, la dichotomie de style, en fait, que tu vois, c'est que, en fait, quand il y a de la mise en scène, en fait, c'est pas tellement pour, comment dire, agrémenter l'aspect comique du film, mais plutôt le côté, justement, policier, mystère, action. Ouais.
C'est une comédie d'action, hein.
Ouais, il y a notamment un plan séquence dans une villa qui est plutôt pas mal, hein.
Un faux plan séquence, pour le coup.
Un faux plan séquence, mais au moins, comme tu disais, Pierre, il y a au moins une démarche de vouloir proposer une mise en scène. Mais là, ça touche vraiment qu'une scène d'action, mais ça ne vient pas rehausser, en fait, la comédie. Et là, quand on est dans la comédie, c'est essentiellement sur des dialogues, très peu sur des gags visuels. Et on est vraiment dans du chant contre chant, des gens qui se parlent, qui se répondent, voilà, ce genre de choses qui est très basique aujourd'hui dans la comédie US. Et donc c'est pour ça que ça souffle un peu le chaud et le froid, je pense, en termes de mise en scène. C'est, on a vraiment des passages, on se dit tiens, là il y a un effort de fait, mais en fait c'est pas tellement pour l'humour, en fait.
Ok Pierre, vas-y. Je trouve ça, enfin du coup je rebondis sur ce que tu viens de dire. Voilà, je trouve ça un petit peu déconnecté. On a l'impression qu'il y a deux films, deux univers rassemblés en un, et ils ne se correspondent pas tellement. Voilà, je trouve ça un peu déconnecté.
Mais c'est pas toujours équilibré, Ilan.
Non, pas du tout.
Ouais. Moi, comme mes petits camarades, j'ai bien aimé le film. J'étais assez surpris. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand je voyais les bandes annonces, j'avais l'impression qu'on allait se retrouver devant une version de Cluedo de Very Bad Trip. En plus, bon, Jason Bateman, qui est un acteur que j'aime bien, mais que je préfère quand il est dans le registre sérieux et qu'il est un peu abonné depuis 5-6 ans, voire plus, aux comédies un peu lourdes. Voilà, il s'empillait Warner, mais bon, je pense que ça, c'est des choses dont on parlera après. Donc voilà, donc il y avait tout un faisceau d'éléments qui, a priori, étaient négatifs. Et puis, au final, j'étais assez surpris. J'étais surpris, effectivement, par la mise en scène. Qui est assez ludique, qui a quelques idées qui sont sympas, sans effectivement prendre trop le pas sur la narration, ce qui est parfois dommage, mais il y a cette volonté de vouloir un peu réveiller le schéma habituel de la comédie US, en tout cas formellement. Et voilà, et puis ce qui m'a surtout aussi plu, c'est que bon, c'était relativement bien écrit, et que t'as un personnage secondaire qui est absolument génial. Tu as mentionné tout à l'heure, c'est celui qui est incarné par Jesse Plemons, qui amène une espèce de folie au film qui est pas la même que celle que pouvait faire Zach Galifianakis dans Les Vieilles Batteries.
J'ai beaucoup pensé à lui pendant le film avec ce personnage là. Julien.
Jesse Plemons, qui était sosie de Matt Damon avant, et qui maintenant est devenu sosie de Val Kilmer.
Ah oui, c'est sosie.
C'est méchant, mais c'est vrai.
Mais il a exactement la même gueule.
C'est vache, mais ça fait cet effet.
Bah, je pense qu'il a été cloné. On peut le dire, Val Kilmer a été cloné. C'est Jesse.
Oh.
Je voulais rebondir sur le scénario. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve quand même que le film scénaristiquement ne tire pas tout le potentiel du pitch, en fait.
Oui,
du
complètement.
Concept.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que le quiproquo. Du départ aurait pu être vachement plus étendu, et en fait il est très vite amené à son terme. Il découvre très vite quand même que c'est pas un vrai jeu, en fait. Tu vois, quand ils retrouvent leur frère.
Attention,
dans la première partie,
trop spoiler.
Je spoil pas trop, mais il y a vraiment un moment où ils disent c'est pas un jeu, ils se préviennent entre eux, donc c'est très vite et
ça vient très tôt dans la narration. Hein.
Ça voilà, c'est amené à son terme très très vite. Ça aurait pu être plus poussé. Et puis il y a d'autres, je trouve qu'il y a d'autres pistes en fait qui auraient pu être encore plus poussées aussi par rapport à tout ce côté mystère et un peu policier qui aurait pu justement amener beaucoup de gags et c'est dommage. Je trouve que après le film, plus il avance, plus il rentre dans des rails qu'on connaît un peu déjà quoi.
Mais disons que donc comme tu l'as rappelé Thomas, c'est une comédie d'action, donc il y a quand même un mystère, il y a du suspense, il y a deux trois scènes d'action, quelques poursuites, etc. Effectivement, c'est vrai qu'on on s'aborde un petit peu toute tentative de mystère dès les premiers temps du film. Et puis malgré tout, bon, ils tiennent une intrigue et quelques retournements de situation jusqu'à la fin. Ouais. C'est pas aussi simple.
Le film ne retombe pas. Complètement.
Je pense avoir vu là. Et puis c'est vrai qu'il y a cet hommage à The Game de David Fincher. Je pense avoir vu là un intérêt des réalisateurs plus pour leur personnage que pour cette intrigue. Et au final, le film se concentre beaucoup là-dessus, sur ses personnages, sur ses situations, sur ce couple principal qui est incarné par Jason Bateman et Rachel McAdams. Rachel McAdams, c'est une comédienne que j'aime beaucoup et qui est très bien là-dedans, très naturelle.
La dernière fois que je l'ai vue, moi, c'était dans True Detective saison 3 que j'avais.
Ouais, elle était très bien dedans.
Beaucoup aimé.
Et les personnages, je les trouve globalement assez attachants, tu vois, même s'il y a des personnages secondaires qui sont,
qui existent peu, quoi.
Qui existent peu, mais je trouve qu'ils sont quand même malgré tout assez bien incarnés, tu vois. Enfin, je me suis soucié du rôle et de l'avenir des personnages au fil de l'histoire, à part un ou deux peut-être, mais les personnages sont assez attachants et je trouve qu'au moins ça tient la route.
Ouais. Alors, ce qu'on peut peut-être aussi reprocher au film, c'est de pas assez, alors pas forcément sur la forme, mais peut-être sur le fond, de pas suffisamment jouer sur l'aspect jeu. Parce que voilà, il y a une intrigue policière, mais moi j'aurais bien aimé que le film joue un peu plus avec moi, multiplie un peu plus les fausses pistes effectivement sur le registre comique. Et je rejoins Julien quand il dit que sur la dernière partie c'est sur des rails, mais après voilà, dans l'ensemble c'est tellement rafraîchissant entre guillemets, bon ça m'embête un peu de dire rafraîchissant, mais dans le paysage comique américain actuel, que faire la fine bouche, ça serait un peu dommage, ce serait faire la fine bouche que te focaliser là-dessus.
Moi je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire sur le côté jeu, dans la mesure où moi j'ai vu cette notion de jeu, de plateau, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise en scène. Il y a des plans,
des effets de tilt shift, ouais.
Voilà ce qu'on avait vu par exemple dernièrement. Alors j'ai tout de suite pensé à la scène de l'aviron dans The Social Network avec
de David Fincher, d'ailleurs
David Fincher pour le coup. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé ça hilarant, mais très plaisant. Et heureusement, effectivement, heureusement à mon avis qu'il y a Jesse Plemons. Moi je me suis surpris à rigoler même dans la salle par moment, pendant que les autres ne riaient pas.
Mais lui il est vraiment très cool.
Il a des super scènes. Bon voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Hein. C'est on le conseille quand même.
Oui,
il faut aller le voir. Ouais. Et puis il y a quelques bons gags qui m'ont m'apercevant bien fait rire.
Est-ce qu'on lui met une note sur 10, hein?
Sur 10?
Ouais, Ilan, allez.
Sur 10, je vais mettre un petit 6 parce que c'est plaisant, mais pas révolutionnaire. Mais c'est une bonne comédie.
Un petit
6.
Un petit 6? Ok, d'accord. Julien?
Je lance un 6 et je tombe sur la case relancer l'idée, ouais. Allez, pourquoi pas.
Ok. Pierre, j'étais en train de chercher un parallèle avec un truc de jeu, mais sur le coup, je trouve pas. Je pense que je vais être à 6-7, même parce qu'en fait, une comédie, même si elle est pas révolutionnaire, même s'il y a des passages qui sont un peu clichés, etc., au final, le but d'une comédie, c'est de faire rire. Moi, je me suis amusé, et voilà, j'ai passé un bon moment. 6 ou 7, ouais.
Ouais, bah écoutez, je vais m'aligner avec vous. 6 et demi. Hein. Voilà, bon, Game Night c'est actuellement en salle, allez-y, vous passerez quand même un très très bon moment. Et puis bah nous, c'est justement, ça va nous permettre de rebondir sur la comédie US aujourd'hui. C'est depuis alors j'ai pris comme marqueur Very Bad Trip 2009, donc la comédie des années 2010. On va faire un petit état des lieux tout de suite juste après ça. Alors, la comédie américaine, genre on ne peut plus fédérateur, mais aujourd'hui, entre les dramédies indépendantes bourrées de spleen existentiel qu'affectionnent particulièrement les festivaliers de Sundance et les grosses machines qui tâchent depuis Very Bad Trip, est-ce que la comédie US des années 2010 n'a pas tendance à se répéter dans ces thématiques? Est-ce qu'elle est un peu dans une impasse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait une comédie, encore une fois, comme Very Bad Trip, qui marque les esprits, qui reste et qui puisse effectivement durer dans le temps? Est-ce que Game Night peut avoir justement ce potentiel, selon toi, Parce qu'il y a un concept fort quand même. Hein.
Alors il y a un concept fort, et le concept fort, le film à concept, c'est un peu l'un des grands trucs de la comédie US ces derniers temps. Non, je pense pas que Game Night puisse changer le game.
Ah,
si je peux me permettre ce petit jeu de mots audacieux.
Bravo.
Je dirais que même Game Night, il est dans une formule. Et d'ailleurs, c'est bien de parler de Very Bad Trip, le premier, The Hangover, donc, pour son titre
US.
Son titre US. Parce que The Hangover, ça a quand même lancé toute une nouvelle série de comédies qui sont toutes sur ce même schéma. Et je dirais que Game Night est aussi dans cette formule. Parce qu'on est vraiment dans la comédie régressive, on est sur la comédie qui s'adresse aux la bonne trentaine passée, les quarantenaires qui retombent en enfance. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu ça, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais le cœur aussi de Game Night, hein, c'est ces adultes qui, je sais pas, on n'est pas non plus dans le syndrome de Peter Pan, mais qui veulent rester dans une espèce de vie de jeu, d'adolescence, etc. Ils savent pas s'ils vont avoir un enfant. Mmh. C'est aussi un peu ça le sujet du film. C'est une formule, et c'est une formule qui va très loin, puisque moi, un des trucs qui me gêne véritablement dans la comédie US contemporaine, c'est qu'il y a même au-delà de l'écriture, au-delà du concept, je trouve qu'on est même, il y a une espèce de charte, on est presque chez Marvel, où on a instauré un look, un étalonnage, une colorimétrie, et il faut que tous les films soient sur le même modèle et
une
se ressemblent
aussi.
Et un type d'écriture, mais ça on va y revenir, mais ne serait-ce que visuellement, je trouve que les comédies US, tu ferais un screenshot, une capture d'écran de quasiment tous les films qui sont sortis depuis les années 2010, ils sont complètement interchangeables, c'est les mêmes images, c'est le même format, c'est le même type de mise en scène. Aujourd'hui, la comédie US, elle est particulièrement feignante, surtout en termes de mise en scène, il n'y a plus de cinéma derrière, c'est, en fait, on est presque, pour une bonne partie ce cinéma, on prend des comédiens du Saturday Night Live ou ce type de mec, on les met devant une caméra, on les laisse improviser pendant des heures et on appuie sur enregistrer, quoi. C'est juste ça en fait, il y a plus de mise en scène derrière.
Julien ?
Ouais, non, c'est vrai, niveau mise en scène, il y a très peu de réalisateurs aujourd'hui qui utilisent le langage cinématographique pour créer de l'humour en fait, pour créer du... des gags. Moi, le seul que je vois pendant aujourd'hui, c'est Edgar Wright, en fait.
Ouais,
mais c'est un Britannique.
C'est un Britannique. Mais donc,
Baby Driver,
quand il fait Scott Pilgrim, il le fait aux États-Unis. Et donc, moi, Scott Pilgrim, c'est un film qui est en tant une parodie de jeu vidéo, qu'un vrai jeu vidéo, qu'une comédie adolescente. Et il y a plein de gags que je me souviens. Et en fait, quand t'es dans la comédie pure, en fait, aujourd'hui, je me souviens plus trop des gags. Parce que c'est toujours un peu les mêmes thématiques, toujours un peu les mêmes sujets. Hein, on est dans la famille, le mariage, le divorce,
ou
les enfants.
Trentenaire, quarantenaire.
Qui ne veut pas grandir, qui a un retour à l'adolescence un peu puéril.
Edgar Wright est dans cette démarche aussi avec la trilogie Cornetto.
Bien sûr, mais lui, il l'accompagne d'une réflexion sur le genre, sur ses personnages. Et comme je dis, il utilise toute la panoplie du langage cinématographique pour nourrir ses gags et ses traits d'humour, quoi.
Et il est pas dans le doudou, la nostalgie, tu vois, parce que même Game Night rebalance, on en parlait tout à l'heure, juste entre les deux parties, énormément de références au passé, il parle de Pac-Man, on est dans le plaisir régressif, et ouais. Edgar Wright est pas du tout là-dedans.
Oui, c'est vrai que de toute façon, il y a cette tendance, la comédie américaine, d'être ce que j'appelle amoral ou moralement amoral. C'est-à-dire que derrière le côté délinquescence et on boit comme des troncs, on se drogue, enfin, on est. Côté débauche, derrière, il y a toujours un propos assez moralisateur, assez puritain.
Oui, c'est vrai.
Il faut le retour à la normale, en fait.
Oui, bien sûr. C'est le petit grain de sable, mais rien ne vaut la famille derrière. Donc, en ça, on peut aussi dire que Very Bad Trip soit est assez hypocrite, soit est assez cynique. Mais toujours est-il que, de manière générale, oui, on a un problème avec la comédie américaine, c'est que ce soit les comédies à la Very Bad Trip, que ce soit les comédies de Judd Apatow ou encore Paul Feig qui décline au féminin les sous-genres de la comédie, on a toujours des standards de différents types de comédies. Et il y a un côté un peu algorithme dans la comédie américaine, un peu la Netflix. Si vous avez aimé Very Bad Trip, vous aimerez ça. C'est un peu le chemin de pensée des studios, la mentalité de studio. C'est bon, pour notre public qui aime Very Bad Trip, on va faire, je sais pas moi, un film. Je crois qu'il y a un film qui avait sorti il y a pas tellement longtemps avec T.J. Miller sur un enterrement de vie de garçon qui s'est mal terminé. Donc déjà la comédie qui a un peu 10 ans de retard. Mais c'est que des choses comme ça, et je pense que la comédie américaine doit effectivement se sortir de là. Alors maintenant, est-ce que Game Night va changer la donne? J'ai pas l'impression, parce que ça va instaurer un nouvel algorithme, je pense, parce qu'on va avoir des ersatz, à mon avis, de Game Night qui vont fleurir. Donc saluons Game Night pour son côté un peu précurseur entre guillemets, mais espérons que tout ça ne devienne pas trop systémique.
Je dirais même que l'autre pendant de la comédie US et qui justement, enfin, va de pair avec cette mise en scène qui s'est considérablement affaiblie pour moi, c'est que on tourne aussi beaucoup dans la comédie autour de figures centrales. Ah bon, ça existait déjà avant, hein, bien sûr. On a toujours fait des comédies sur tel ou tel acteur et on le laissait plus ou moins s'amuser. Jim Carrey fait ci, Jim Carrey en Afrique, Jim Carrey dans l'avion, voilà. Mais on va, par exemple, si on prend le cinéma de aujourd'hui, les grosses comédies très populaires aux États-Unis, le cinéma, les comédies de Kevin Hart, par exemple. C'est typiquement des films qui ne reposent que sur lui, sur sa performance. Il n'y a absolument rien d'autre. L'histoire est simplement un prétexte. Ce qui n'était pas forcément le cas pour des comédies autour de stars dans les années précédentes. Moi, je suis très fan, par exemple, de Will Ferrell. Je trouve que c'est un excellent comédien. C'est même un génie de la comédie. On pourrait même dire que Steve Carell, aujourd'hui, c'est un acteur avec un extraordinaire potentiel comique. Sauf qu'il se retrouve à chaque fois dans des comédies qui ne fonctionnent que parce que eux, ça va apporter quelque chose. Mais derrière, on est... C'est le cinéma au niveau zéro. Heureusement, ils ont ces comédiens qui sont quand même assez talentueux. Mais si tu prends une fille comme Melissa McCarthy, par exemple, que j'aime bien. Non, mais surtout Melissa McCarthy, je trouve qu'elle est très forte. Elle est vraiment très drôle. Mais par contre, elle tourne dans des films, c'est hyper faible, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais concernant Will Ferrell, oui, je suis d'accord sur ce que tu dis concernant Will Ferrell. Mais par exemple, quand tu l'associes à un mec comme Mark Wahlberg, ça donne une dynamique assez intéressante. J'ai vu
La Disphome, par exemple.
Ouais, par exemple, je l'ai vu le 2 là. Il y a pas longtemps, qu'il n'y a pas une comédie hilarante en soi, mais tout repose sur la dynamique du duo.
Oui, ça fonctionne plutôt.
Quand tu centres un film sur cette dynamique-là, tu peux avoir des choses assez intéressantes et sortir effectivement du giron film de star. Quoi.
Mais tu vois, moi par exemple, j'aime beaucoup Will Ferrell et j'aime beaucoup le premier Anchorman, mais c'est un film qui visuellement n'a aucune personnalité. Ça reste pour moi, tous ces films-là, ça reste des sketchs du Saturday Night Live filmés et point barre, quoi.
Alors qu'autre filmé?
Ouais, des impros, c'est exactement ça, c'est des impros filmés. Alors que pourtant, je repars sur le Saturday Night Live, ils ont fourni la quasi-totalité des gros, Bill Murray, Eddie Murphy, Dan Aykroyd, enfin, ils sortent tous de là, tu vois, les Blues Brothers, Wayne's World. Mais ça veut pas dire que derrière, il y avait pas une tentative de faire un film, alors que, globalement, il y a peut-être Ben Stiller, en fait, qui s'en sort un peu mieux.
Ouais.
Qui apporte quelque chose, qui apporte un regard, malgré tout, de cinéaste qui a quelque chose à dire.
Ouais, bah, c'est parce que, en fait, est-ce que, la comédie ne peut pas s'exprimer pleinement avec des vrais réalisateurs d'ailleurs qui s'emparent d'un genre. On en discutait l'autre jour. Moi, je te disais que la dernière bonne comédie que j'ai vue, c'était The Nice Guys, quoi, tu vois.
Ouais, ben bah, parce que c'est Shane Black
derrière.
C'est très bien The Nice Guys. Hein, allez le voir.
T'as un super duo derrière, devant, pardon, la caméra avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Et puis tu as ce genre du film policier qui est totalement réinvesti avec une écriture, une mise en scène.
Moi, j'aurais dit Logan Lucky.
Logan Lucky, oui, effectivement.
Bien fait, rien.
Soderbergh.
Ouais, c'était marrant. Ouais.
Ouais, je trouvais ça sympathique. Non, mais pareil, il y avait Tonnerre sous les Tropiques, il y avait une ambition visuelle et
qui est un film qui reste
de dimension où il y a vraiment des gags iconiques. Alors, je parle même pas de Tom Cruise dans son caméo, hein, mais il y a vraiment. Mais voilà, il y a toujours une espèce de. Pour que la comédie elle reste, il faut le mélanger à un autre genre, j'ai l'impression. Moi, c'est vraiment mon sentiment personnel. Je ne retiens que les trucs comiques. Je trouve que ça ne marche au niveau scénaristique que quand c'est associé à du genre. Quand tu mets dans une comédie d'action, dans une comédie, je sais pas, même de science-fiction. Enfin, tu vois, il y avait le dernier pub avant la fin du monde, qui est un film anglais. Mais voilà, je retiens des gags de ça. Mais une comédie pure, j'aurais du mal à te citer une comédie où vraiment je me rappelle tous les gags que comme je peux me souvenir des comédies des années 90, 80 où là il y a des scènes cultes à l'appel quoi.
Mais est-ce qu'on n'est pas trop focalisé justement sur la comédie avec la nous ce qu'on vient chercher effectivement parce qu'on est cinéphile, on vient chercher aussi de la mise en scène, une personnalité, une identité forte. Aujourd'hui, le grand public ne vient pas chercher ça. Et puis même je rematais l'autre jour des films de Jim Carrey. Il y a pas non plus, tu vois, c'est pas une réalisation de dingue, mais ça tient parce que
Jim Carrey, dans le lot, il y en avait des très bons, tu vois. C'est oui. Ça en fait. Dans sa longue filmographie, il y a du bon et du moins bon. Ça, c'est...
Effectivement, tu prends The Mask, c'est un film effectivement qui a une identité forte visuelle dans tous les cas. Quel est votre réalisateur de comédie préféré
Mais on parle de contemporain là ou toutes catégories confondues,
les 15-20 dernières années
et pas forcément dans la comédie US. Ah, comédie US.
Parce que si on rentrait, si on restait dans la thématique quand même.
Sujet, parce que moi j'aurais cité Jean-Marie Poiré.
Non, qui? Parce que j'y vais. Je suis un grand nostalgique des frères Farrelly.
Des frères, ouais, bien sûr.
Dobby Dumber, Food Irene, que pour moi c'est film de chevet. Et la dernière fois qu'on a vu les frères Farrelly, c'était en 2014. Bon, celui-là, je le compte pas parce que c'était le Dobby Dumber 2, retour pénible et franchement pas reluisant. Mais tu vois, par exemple, Bon à tirer de 2011. Qui a un peu scellé leur carrière, j'ai l'impression. Alors le problème, c'est qu'ils arrivaient avec une nouvelle tendance de la comédie US avec Very Bad Trip. C'était en 2011, Very Bad Trip c'était en 2009. Et voilà, on avait basculé, si tu veux. Et eux, ils essayaient de revenir à un truc bien gras, mais ça fonctionnait pas. C'était poussif. Mais j'avais une tendresse pour le film quand même, malgré tout.
Ouais, quand tu parles cette tendance dont tu parles, on peut aussi dire que c'est quelque chose qui a initié effectivement Warner avec les Very Bad Trip et qui est toujours allé plus loin dans la comédie grâce à concept finalement peu drôle, mais on oublie aussi la notion de tempo dans le comique.
Effectivement,
c'est quelque chose auquel on a l'impression que les gens sont de moins en moins sensibles, et pourtant c'est ce qui fait aussi tout le sel d'une comédie.
Oui, bien sûr.
Alors pour répondre à ta question, moi un réalisateur de comédie, alors ce serait plutôt un duo. Je vais dire Phil Lord et Chris Miller, ouais, parce que le diptyque 21 et 22 Jump Street m'avait beaucoup fait marrer, surtout le deuxième, c'est très, très drôle. Et même la grande aventure Lego m'avait beaucoup fait rire. Donc je trouve que c'est un duo qui est intéressant dans ce qu'il veut dire sur le cinéma, sur la manière dont il réutilise justement les codes du cinéma qu'il aime, qui peuvent être aussi du cinéma de genre. T'as une espèce d'hybride, de côté hybride. Qui est assez intéressant et drôle.
Ouais, malheureusement, on ne saura jamais ce qu'ils avaient à dire sur Star Wars Han Solo.
Julien, moi, c'est pas que c'est un grand formaliste, mais j'aime bien Adam McKay. Il a fait des films assez rigolos qui me plaisent bien. Mm-hmm. Hein, et puis bon, lui, il a dérivé plutôt vers la comédie. Encore Man 2, Very Bad Cops.
Oui,
non.
C'est Cops. Oui, il me semble que c'est lui.
C'était lui. Ouais. Mm-hmm. Et oui. Voilà. Bon, après, il y a, comme je dis, côté mise en scène, c'est pas foufou, hein. Mais au moins, c'est des comédies que je me souviens un peu, quoi.
Il a essayé de sortir du genre de la comédie avec The Big Short. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Ouais, très bien d'ailleurs. Ouais, et puis d'ailleurs, justement, je pense que c'est son film le mieux réalisé en termes de pure mise en scène. Rien qu'avec le montage, par exemple, où il y a vraiment des efforts faits.
Nous, tu te souviens, Pierre, on s'était un peu ennuyé.
Ouais, je faisais la tronche. Hein.
Et toi, Pierre, alors?
Moi, j'aime bien les comédies assez riches visuellement et assez irrévérencieuses. J'aime bien les trucs un peu de sale gosse. Je parlais de Ben Stiller. J'aime bien son disjoncté avec Jim Carrey, par exemple. Tu vois,
il est fabuleux, celui-ci.
Ils ont retiré Netflix, c'est un scandale. Là, je fais un appel Netflix, si tu nous écoutes, remets disjoncté.
J'ai le temps de le voir, moi. Ouais.
Mais du coup, je trouve que la comédie US a énormément perdu ces dernières années, et toutes catégories confondues, y compris dans l'animation. Et en voulant faire une recommandation, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, et dans les années, parce que je cherchais quelque chose américain des années jusqu'aux années 2010, quoi. Et j'ai pas réussi à trouver, sauf ceux que j'ai mentionnés, Logan Lucky, The Nice Guys, etc. Mais il y a un film que j'aime énormément, qui pour le coup est un film d'animation, qui est une comédie américaine et qui m'a fait mourir de rire, et que je me marre tout le temps à chaque fois que je le vois, qui est complètement irrévérencieux. Ça ressemble à rien de ce que vous avez pu voir auparavant. C'est le mal aimé Team America World Police.
Ah,
du duo,
et oui,
du duo des créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone. D'ailleurs, tu l'avais vu chez moi, oui, Thomas. Oui, oui. Je me souviens que tu t'étais bien marré.
Chef-d'œuvre.
Et c'est un chef-d'œuvre. C'est un film extraordinaire. C'est hyper drôle. C'est novateur. C'est irrévérencieux au possible. Il y a tout. On a de l'humour plus fin qu'il n'y paraît. On a du pipi caca. On a de l'anime. On a tout. C'est un film merveilleux. Il faut le voir absolument.
Et en parlant d'animation crade, est-ce que t'as vu Sausage Party?
Ouais. Et moi, j'ai été. J'ai trouvé ça extrêmement faible. J'utilise ce mot très souvent. C'est très faible, Sausage Party, pour moi. Enfin, ça m'a pas particulièrement fait rien.
De Seth Rogen, hein.
Ouais. Et tu vois, lui, je trouve que c'est une des stars de la comédie US actuelle.
Je crois que c'est le Frat Pack. Ouais. Qui s'appelle Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill.
Et là, on est dans le plaisir agressif pur et dur. Tu vois, il y a que ça en fait dans leur cinéma.
Ouais,
comment ça s'appelait le film avant la fin du monde là,
c'est la fin.
C'est la fin.
Ouais, bah,
moi j'ai bien aimé.
C'était drôle.
Ouais.
D'accord. Okay.
Encore une fois, c'est des films bavards qui passent par les dialogues pour te faire rire et qui sont pas capables de te faire rire autrement.
Oh, ils ont investi un genre quand même. Ils ont investi genre film apocalyptique, tu vois.
Ouais, bah tu parlais du film d'Edgar Wright qui était justement la concurrence. Il y a quand même deux salles de d'ambiance.
Il
n'y
a pas photo.
Oh, non, mais ça on est d'accord. Mais c'est pas non plus honteux. C'était pas non plus honteux.
Bref, allez voir Team America World Police.
Ok, bon, bah voilà, la comédie US, genre. Comment dire, genre toujours autant fédérateur, mais qui est quand même très très à la peine.
Ça pourrait être pire, hein, il y a la comédie française.
Tu penses à quoi?
Je veux dire, la comédie française, elle est pas seulement feignante, là, elle est dans le coma.
Ouais, mais ça fait des entrées.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
Pour une fois, je trouve Pierre très gentil.
Très gentil.
Ah ouais. Mon concept de la comédie française est accablant.
Hein. Alors, une bonne comédie française là que vous avez vue récemment. Ces 10 dernières années.
OSS 117.
OSS, ouais.
Il va falloir couper au montage parce qu'on va pas trouver, je sais pas.
Non, OSS, moi je suis d'accord.
Ouais.
Bon, bah voilà, en tout cas.
À la recherche de l'ultrasexe.
C'était quoi ça?
C'est le film
de Nicolas et Bruno.
Ouais, ouais. Nicolas et Bruno aussi, ça c'est très drôle.
Voilà. Game Night, c'est actuellement en salle. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec nous sur la comédie US. Quel genre vous aimez voir être réinvesti ou pas. Dites-nous tout ce que vous pensez de ce genre. Et
c'est quoi votre comédie préférée aussi?
Ouais, exactement. Hashtag fun footage, hashtag votre comédie. Fun Footage épisode 8, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur Séance Radio, iTunes, SoundCloud et toutes les autres applis podcast évidemment. Pierre, à très bientôt.
À très bientôt, j'espère.
On te retrouve sur funfootage.fr.
Yes.
Comme d'hab. Ilan et Julien, à très vite.
À bientôt, oui.
On vous retrouve sur cinévibe.fr. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film. Et quel film, puisqu'on peut déjà vous annoncer que nous allons parler de... Ta-ta-tan !
Avengers.
Avengers Infinity War Part 1. Part 1.
Le charlatan.
Ok. Avengers la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, à vous abonner effectivement à notre podcast. On attend tous vos retours, c'est très important, vous le savez. Et puis on fait de gros bisous. Nous on va mettre de la crème solaire, hein, puisqu'on vous rappelle que nous étions en direct de la pelouse de la Cinémathèque.
Ouais, ça tape un peu. Hein.
Voilà, on va reprendre nos chips et nos bières. Et puis on va se dire à très vite.
À bientôt.
À plus, ciao.
Salut.
Allez, salut tout le monde.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.